à Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahman Dia et Morgane Guerrier en direct de la capitale américaine. On est mercredi 16 janvier 2019. Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel, au sommaire ce soir.
Les juges de la CPI ont rejeté la demande du procureur de maintenir l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en détention.
Pas de triomphalisme. Nous attendons de voir la suite, de comment l'accusation va réagir. L'aspect que vous invoquiez concernant l'indemnisation, pour l'instant, franchement, ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui.
Arrestation au Zimbabwe du pasteur Evan Mawarire alors que la grève générale contre la hausse des prix du carburant se poursuit.
Au Kenya, l'enquête est lancée après l'attaque contre un complexe hôtelier qui a fait 14 morts.
La première ministre britannique face à une motion de censure au lendemain du rejet de son accord sur le Brexit.
En partie magazine, on revient sur l'enlèvement d'une trentaine de personnes dans la région anglophone du sud-ouest du Cameroun.
Il est urgent de gérer politiquement cette crise.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais tout de suite le journal.
La CPI maintient l'acquittement immédiat de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, son ex-ministre de la Jeunesse. Les juges ont rejeté aujourd'hui la demande du procureur de les garder en détention. Éric Manirakiza.
Le juge président Kuno Talfuser a confirmé que la chambre de la cour a rejeté à la majorité la requête du procureur pour maintenir M. Gbagbo et M. Blé Goudé en détention. Les juges ont estimé que les preuves fournies par l'accusation n'étaient pas suffisantes pour le justifier. Ils n'ont cependant communiqué aucun détail sur le temps qu'il faudrait pour libérer les deux hommes du centre de détention de la cour. La Chambre a également demandé au greffe d'obtenir les assurances nécessaires auprès de M. Gbagbo et Blé Goudé pour garantir leur retour dans le cas où leur présence à la cour serait requise dans le futur. Le gouvernement ivoirien a estimé aujourd'hui que la décision de revenir en Côte d'Ivoire appartenait à Laurent Gbagbo. Toutefois, M. Gbagbo est toujours sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire, qui date de janvier 2018 pour crimes économiques.
Les violences communautaires qui ont éclaté à la mi-décembre dans 4 villages du territoire de Yumbi, dans l'ouest de la RDC, ont fait au moins 890 morts. C'est ce qu'indique ce mercredi l'ONU. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme demande l'ouverture d'une enquête. Il est crucial que toute violence fasse l'objet d'une enquête approfondie et rapide et que ses auteurs soient traduits en justice, a écrit Michel Bachelet dans un communiqué.
En Centrafrique, un rond-point central de la capitale Bangui a été bloqué ce mercredi par d'anciens militaires. Ils réclamaient une aide pour leur reconversion. Les anciens soldats, dont beaucoup ont été mis à la retraite anticipée lors de plusieurs plans de restructuration de l'armée qui ont débuté dans les années 2000, réclament des mesures d'accompagnement qui doivent les aider à se reconvertir.
Enlèvement au Cameroun de plus de 30 voyageurs par des séparatistes anglophones présumés sur un axe routier de la région du Sud-Ouest. L'information d'abord donnée par une ONG a été confirmée par une autorité locale. La région du Sud-Ouest, une des deux régions anglophones du Cameroun, est en proie à un conflit armé. Je signale qu'on y revient en partie magazine.
Au Kenya, l'attaque contre un complexe hôtelier à Nairobi a été perpétrée par 5 assaillants et qui ont tous été tués d'après la police. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Il y avait 5 terroristes et tous sont morts, a déclaré Joseph Boané, chef de la police, expliquant que l'un est le kamikaze et les 4 autres ont été tués. Il a ajouté qu'une opération de ratissage du complexe était en cours. Au moins 14 personnes sont mortes selon un bilan provisoire dans cette attaque qui a duré 20 heures. De son côté, une source à la morgue a affirmé que 15 dépouilles ont été enregistrées, 11 Kenyans, un Américain, un Britannique et 2 personnes dont la nationalité n'a pas pu être établie dans l'immédiat. Plus de 700 civils ont été évacués. L'attentat a été revendiqué par les islamistes somaliens Shabab. Le Kenya a plusieurs fois été la cible d'attaques terroristes de grande ampleur. En août 1998, l'attentat contre l'ambassade américaine à Nairobi a fait 213 morts et en avril 2015, 148 étudiants ont été massacrés à l'université de Garissa dans l'est du pays.
Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a lancé un appel au calme au troisième jour de protestation déclenchée par la hausse des prix du carburant, tandis que le meneur de la contestation, Evan Mawarire, a été interpellé ce matin. Nathalie Barche.
Emmerson Mnangagwa, actuellement à l'étranger, a rompu le silence pour appeler ses compatriotes à la retenue. La violence ne réformera pas notre économie et ne reconstruira pas notre nation, a-t-il écrit sur son compte Twitter. À Harare et Bulawayo, de nombreux commerces ont été pillés et des bâtiments et voitures ont été brûlés. Selon la police, au moins 3 personnes ont été tuées et plus de 200 manifestants ont été interpellés, dont des élus de l'opposition et des leaders de la société civile. Le pasteur Evan Mawarire, symbole des manifestations, a été interpellé à son domicile de Harare et placé en garde à vue. Selon ses avocats, la police affirme qu'il a incité à la violence par le biais des réseaux sociaux. Le pasteur devrait être déféré devant un tribunal de la capitale jeudi matin.
Au Soudan, la police a tiré des gaz lacrymogènes contre une manifestation anti-gouvernementale à Kassala. Et c'est la première fois qu'une manifestation de ce genre se tient dans cette ville de l'Est depuis le début du mouvement de contestation il y a 4 semaines. Au cri de liberté, justice et paix, les manifestants ont défilé dans la rue avant l'intervention de la police. Cette manifestation à Kassala est survenue quelques jours après un rassemblement de soutien au président Omar el-Béchir dans cette même ville.
Bilan macabre des accidents routiers en Afrique du Sud. Plus de 1600 personnes ont été tuées sur les routes pendant la seule période des fêtes, soit une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente. Selon le ministre des Transports, ces décès ont été enregistrés du 1er décembre 2018 au 8 janvier 2019. Nos routes continuent à être des abattoirs, s'est indigné Bladé Zimonde. Plus de 80% des accidents sont liés à des facteurs humains tels que la conduite en état d'ivresse, l'envoi de messages en conduisant et les excès de vitesse, a-t-il expliqué.
En Égypte, les forces de sécurité ont tué 5 combattants islamistes dans le Nord Sinaï, selon le ministère de l'Intérieur. Environ 500 djihadistes présumés sont morts depuis le lancement en février d'une vaste campagne antiterroriste baptisée Sinaï 2018, selon l'armée.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La première ministre britannique Theresa May, face à une motion de censure au lendemain du rejet massif de son accord de Brexit par les députés britanniques. Le point avec Nanit Talani.
La motion déposée par le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn sera votée autour de 19h temps universel. Elle a peu de chances d'aboutir étant donné le rapport de force à la Chambre des communes. Le parti conservateur de Mme May et son allié l'ultra-conservateur nord-irlandais disposent de la majorité absolue et n'ont aucune envie d'ouvrir la voie à une arrivée au pouvoir des travaillistes. C'est la dernière d'une série de désaveux pour la chef du gouvernement britannique après le rejet hier par une écrasante majorité de députés de l'accord conclu avec Bruxelles pour une sortie de l'Union européenne. Si Theresa May surmonte cette motion de censure, elle a jusqu'à lundi pour présenter un plan B qui soit de s'engager à retourner négocier à Bruxelles ou demander un report de la date du Brexit. Il y a aussi possibilité d'un divorce sans accord, comme le craignent les milieux économiques.
Des militaires américains ont été tués dans une attaque à Minbej dans le nord de la Syrie. Information confirmée par la coalition anti-djihadiste sans préciser leur nombre. Ils ont été tués par une explosion alors qu'ils menaient une patrouille de routine, indiqué un porte-parole sur son compte Twitter. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 2 soldats américains figurent parmi les 16 personnes tuées dans l'attentat suicide revendiqué par le groupe djihadiste État islamique.
Yémen, le Conseil de sécurité a adopté une résolution confirmant l'établissement d'une mission d'observation de l'ONU au Yémen pour une durée initiale de 6 mois. Elle vise à superviser un cessez-le-feu et le retrait de troupes de Hodeida, port crucial pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Le texte adopté à l'initiative du Royaume-Uni prévoit une mission comprenant 75 observateurs civils. Une quinzaine d'observateurs sont déjà à l'œuvre au Yémen.
Le chemin de la paix exige des talibans qu'ils mènent des pourparlers directs avec le gouvernement afghan. C'est ce qu'estime l'émissaire américain pour la paix en Afghanistan. Malgré de nombreux nombreuses sollicitations, les insurgés ont toujours refusé de discuter avec le gouvernement de Kaboul, qu'ils qualifient de marionnette de Washington. Mardi, dans un communiqué, les talibans ont même menacé de suspendre les pourparlers engagés avec les États-Unis. Voilà 17 ans que le pays est en guerre.
Ici aux États-Unis, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, demande à Donald Trump de repousser son grand discours sur l'état de l'Union prévu le 29 janvier pour présenter son programme annuel à cause du shutdown qui paralyse partiellement les administrations américaines. Madame Pelosi et Monsieur Trump sont engagés dans un bras de fer depuis plus de 3 semaines autour de cette impasse budgétaire qui a poussé quelques 800 000 employés fédéraux au chômage forcé ou à travailler sans solde pour ceux dont les emplois sont jugés essentiels.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Et c'est Nani Talani qui nous présente la Minute Éco.
Les petits exportateurs ivoiriens de cacao demandent un report de 70% de leur contrat de livraison pour octobre-décembre 2018 à janvier-mars 2019, rapporte Reuters. Cette demande est motivée par les difficultés d'accès au financement de leur activité sur le terrain et la réticence des banques depuis la liquidation de la SAF cacao en juillet dernier. Certains pointent aussi du doigt la faible disponibilité des fèves pour les petits opérateurs en raison de la présence sur le marché de sociétés étrangères de négoce qui disposent d'une plus grande capacité financière. Au Zimbabwe, le gouvernement envisage de réintroduire la monnaie locale, le dollar zimbabwéen, d'ici à la fin de l'année pour pallier le manque de dollars américains. Le pays compte ainsi répondre à la rareté des billets qui étranglent son économie depuis ces années d'inflation. Pour terminer, la compagnie tunisaire annonce une grève susceptible de perturber le trafic aérien en Tunisie. Elle exhorte ses clients à modifier leurs réservations. La cessation de travail est un appel de l'UGTT, le plus grand syndicat du pays, après l'échec des négociations avec le gouvernement pour parvenir à un accord permettant de relever les salaires de 670 000 fonctionnaires.
Présent la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Le comité de normalisation de la Fédération malienne de football est dans la tourmente.
Oui, sous l'impulsion de la Ligue de football du district de Bamako, des manifestants ont marché hier pour réclamer la démission du comité de normalisation du football malien. Depuis 4 ans, le Mali n'a pas de championnat et si le CONOR a tenté de relancer les compétitions le mois dernier, il a été stoppé dans son élan par le ministère des Sports qui craignait une situation d'insécurité suite à la relégation de certains clubs. Bissi Sangaré, organisateur de la marche, explique.
Que cette équipe parte, même s'il faut qu'une autre équipe vienne, il n'y a pas de problème. Mais cette équipe-là du CONOR parte. Parce que déjà, ils ont pris part d'un côté. Déjà, la crise est là. C'est deux côtés opposés. Donc maintenant, nous, on a compris qu'ils ont pris part de l'autre côté. Hein? Parce que la sentence ne parle pas de compétition, ne parle pas de relégation. La sentence parle seulement d'annuler une assemblée générale qui a été effectuée et de le reprendre. Mais il faut voir Kita, Bougouni. Vraiment, c'est bizarre. Kita, Bougouni. Surtout, yes, Kita. C'est une équipe qui a été 3e en championnat. Mais comment se fait-il qu'on peut prendre une décision en disant que cette équipe sera relégée en 2 jours? Ça, c'est pas normal. C'est pas ça le football.
Bissi Sangaré était au micro de Siaka Traoré, l'un de nos correspondants à Bamako.
Mercato hivernal, revirement total pour Belanda.
Oui, d'abord poussé vers la sortie par son club de Galatasaray pour des impératifs financiers, l'international marocain s'était résolu à partir et il s'était même mis d'accord avec le club saoudien de l'Etihad Jeddah. Mais l'entraîneur du club stambouliote Fatih Terim était contre ce départ. Galatasaray a finalement refusé l'offre saoudienne et a assuré que Younes Belhanda ne quittera pas le club cet hiver.
C'est déjà fini entre Stéphane Mbia et Toulouse.
Et oui, recruté par Toulouse l'été dernier après son expérience en Chine, l'international camerounais de 32 ans vient de résilier son contrat. Longtemps jugé trop juste physiquement, le polyvalent milieu défensif ou défenseur central n'aura disputé que 5 matchs avec les Violets. Une brouille remontant à l'automne avec l'entraîneur Alain Casanova serait à l'origine de ce départ anticipé. Mais le natif de Yaoundé pourrait ne pas tarder à rebondir puisque son ancien club de Trabzonspor lui aurait soumis une offre d'un an et demi.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec et Abdourahmane Dia. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
Les juges de la CPI ont rejeté l'appel des procureurs de maintenir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en prison après leur acquittement hier. Sur le déroulement de cette journée d'aujourd'hui, Idriss Fall a joint Habiba Touré, avocate de l'ancien président ivoirien.
C'était une journée, pour le coup, extrêmement longue, puisque l'audience a commencé le matin à 10h et que la décision n'est tombée qu'en fin d'après-midi aux alentours de 15h30, 16h. Donc, ce fut une journée assez longue, mais bon, durant laquelle nous étions assez confiants au regard des arguments présentés par l'accusation, des arguments présentés par les défenses respectives et surtout par la suite de la décision qui est intervenue en fin de journée.
Donc maintenant, ça signifie que Laurent Gbagbo va être relâché. Techniquement, est-ce qu'il sort de prison aujourd'hui même?
Bon, écoutez, ça, on ne sait pas encore. Techniquement, il y a un certain nombre de démarches administratives à faire. Comme vous avez pu l'entendre, dans le cadre de la décision, il est demandé au greffe d'accomplir un certain nombre de diligences auprès du président Laurent Gbagbo ainsi que du ministre Charles Blé Goudé. Donc c'est à l'issue de toutes ces différentes démarches qu'en principe, et si tout se passe bien, tous les deux pourraient sortir.
Vous avez défendu Laurent Gbagbo pendant plusieurs années. Quel est votre sentiment et que pensez-vous de sa détention 7 ans après? Est-ce qu'il sera dédommagé? Qu'est-ce qui va se passer?
Écoutez, on n'en est pas là pour l'instant. Comme vous l'avez indiqué, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans d'une vie, c'est long, c'est beaucoup. Donc aujourd'hui, on est plutôt au stade un peu du soulagement. Maintenant, le processus judiciaire n'est pas terminé, donc pas de triomphalisme. Nous attendons de voir la suite, de comment l'accusation va réagir. L'aspect que vous invoquez concernant l'indemnisation, pour l'instant, franchement, ce n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est que le président puisse sortir de son lieu de détention et qu'on puisse voir cette procédure judiciaire complètement terminée. Puisque, comme je vous le rappelle, l'accusation a encore la possibilité d'interjeter appel.
Ah bon, nous, on pensait qu'elle avait déjà interjeté appel ce matin et que la Chambre a rejeté.
Non, et ce qui a été rejeté, c'est la demande visant à maintenir en détention le président Laurent Gbagbo suite à son acquittement. L'accusation estimant que les accusés, bien que innocentés par la Chambre, dans le cadre d'un appel, pourraient ne pas se représenter. Donc, ils ont estimé que les accusés ne présentaient pas de garantie de représentation et pour cette raison, il fallait les maintenir en détention dans le cadre d'une procédure d'appel éventuelle. Maintenant, ce qui n'est pas possible dans la mesure où on parle pas d'un maintien en détention. Il s'agit de personnes acquittées avec une décision de mise en liberté immédiate. Donc, nous ne sommes plus au stade de la libération provisoire ou d'une liberté provisoire. Donc, la donne ayant changé, il nous semblait évident que le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé seraient remis en liberté.
Et apparemment, l'accusation voulait aussi demander que Gbagbo ne retourne pas en Côte d'Ivoire. Sur quelle base?
Bon, sur la base, ils sont partis sur la base des déclarations de M. Ouattara qui avait indiqué qu'il ne remettrait plus aux autorités de la Cour un ressortissant ivoirien. Mais cet argument n'a pas convaincu la Cour qui l'a rejeté.
C'était Maître Habiba Touré, jointe à La Haye.
La plupart des tentatives de la CPI de juger des personnalités politiques de haut rang, presque toutes en Afrique, se sont terminées par des échecs ou des acquittements. C'est notamment le cas de l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba en juin 2018, l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Faut-il douter de l'efficacité de la CPI? Rick Manirakiza, adjoint à Ouagadougou, l'analyste politique Ismaël Diallo.
L'interrogation a une réponse claire, c'est non pas son inefficacité, mais son échec double, échec cuisant. Et c'est à se demander franchement pourquoi cet instrument existe et s'il n'existait que pour les Africains, et même si c'était que pour les Africains, ceux dont beaucoup se défendent, ils prouvent néanmoins qu'il n'est pas compétent, qu'il n'est pas capable de faire correctement son travail. Mais en réalité, ce n'est pas une question de compétence. Pire que cela.
Pour vous, est-ce du prêt-à-porter politico-judiciaire?
C'est un instrument politique. Contre ce que la France et l'Europe ne veulent pas, les Africains que la France et l'Europe ne veulent pas voir aux affaires. Et au bénéfice des suppôts de ces forces, y compris des complicités africaines. Et c'est ce qui s'est passé ensuite avec Kadhafi. Il y a un minimum de justice qu'il faut à tous les échelons. Dans ce cas particulier de Gbagbo, il n'y a pas eu de justice en vérité. Il y a eu une opération militaire dirigée par la France
contre Laurent Gbagbo. Il y a eu un enlèvement par les troupes françaises de Laurent Gbagbo. Il y a eu un emprisonnement et il y a eu un enlèvement. Il y a eu un enlèvement et un transplantement forcé de Laurent Gbagbo à la CPI. On peut entourer cela de toutes les facettes que l'on veut. La réalité est que c'était la politique du plus fort, c'est-à-dire la politique de la France avec Alassane Ouattara et d'autres.
Problème d'efficacité, mais peut-être une juridiction nécessaire.
Je ne sais pas si c'est une juridiction nécessaire. Nous, Africains, avons prouvé que si nous voulons, nous pouvons faire justice. Le cas Issenabré, les cas pendants ou qui ne sont pas encore à l'ordre du jour, ne le sont pas simplement parce que nous n'avons pas encore décidé d'en faire quelque chose, comme le cas de Yaya Jamé de la Gambie. Le jour où la CEDEAO décidera de le traîner en justice, il sera traîné en justice. Que son protecteur de la Guinée équatoriale le veuille ou non.
Est-ce que ces échecs ne relèvent pas de la faiblesse de l'accusation ?
Je ne pense pas que la faute soit à la procureure elle seule. C'est vraiment tout le système.
Le fait que les juges peuvent dire le droit, ça montre que c'est quand même une juridiction indépendante.
Elle est peut-être indépendante pour les faibles, mais elle n'est pas pour les puissants. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est le monde de la puissance, c'est le monde de l'argent, c'est le monde d'influence. Et c'est un jeu d'échecs.
Voilà, c'était l'analyste politique Ismaël Diallo.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, plus de 30 voyageurs ont été enlevés hier par des séparatistes anglophones présumés sur un axe routier de la région du Sud-Ouest, une des deux régions anglophones du pays en proie à un conflit armé. Selon des sources locales, les captifs ont été kidnappés sur l'axe reliant Boya à Kumba. Pour en parler, John Lindon s'est entretenu avec le docteur Raoul Soumo-Tayo. Il est spécialiste des questions de sécurité. Il est également enseignant à l'université de Yaoundé 1.
La réponse essentiellement militaire et la judiciarisation de la gestion de cette crise par le gouvernement camerounais ne marche pas. C'est la preuve même de ce que l'outil militaire a atteint ses limites et que le discours martial de Paul Biya lors du discours de fin d'année ne marche pas. Donc aujourd'hui, plus que jamais, cet enlèvement vient prouver le fait qu'aujourd'hui, les insurgés anglophones ont la capacité d'entretenir l'insécurité, de contourner les mesures reprises par les militaires camerounais pour sécuriser cet espace, malheureusement.
Que doit faire le gouvernement camerounais pour justement sécuriser cet espace?
Il faut dire que la matrice de la radicalisation des anglophones est politique. La gestion de cette crise doit se faire aux politiques. Le gouvernement a mis en place un comité de démobilisation et de déradicalisation. Malheureusement, les conditions, les préconditions n'ont pas été réunies. Je crois que la crise anglophone est le bout du tunnel des dysfonctionnements du vivre ensemble entre les communautés francophones et anglophones, car le résultat de l'incapacité des autorités à gérer une circonstance de l'histoire. Il est urgent de gérer politiquement cette crise. Il est également urgent que les militaires qui sont déployés sur le terrain cessent de se comporter comme une force d'occupation. Nous assistons malheureusement à une situation où les modalités de la contre-insurrection créent l'insurrection dans cet espace. Il faut utiliser une main de fer dans un gant de vélo. Je crois qu'il est important que, déjà, je l'ai dit en processus politique, que l'outil militaire soit utilisé rationnellement, qu'un dialogue véritable soit ouvert entre les différents protagonistes de cette crise.
Alors, il me semble quand même qu'il y a eu des mesures, non, du côté du gouvernement, notamment la libération des personnes détenues récemment par le chef de l'État. C'est pas assez?
J'aurais utilisé le mot mesurette parce que je crois qu'il aurait été important que le chef de l'État alla au bout de la logique qu'il a inaugurée. Vous avez pratiquement plus d'un millier de prisonniers. Lorsqu'on libère à peine 200, je trouve qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un ensemble de conditions. Tout le monde au Cameroun, en tout cas, et tout analyste sérieux, sait où se trouve le problème. Le problème est celui d'une absence de dialogue. Le problème est celui d'un usage exclusif de l'outil militaire. Je crois qu'il faut sortir de cette logique-là pour entrer dans un cadre avec des vraies mesures et non prendre des mesures à moitié. Ce n'est qu'à ce prix. Bien entendu, on ne néglige pas le fait que les personnes soient libérées, mais je crois que le président aurait dû aller au bout de la logique qu'il a lui-même inaugurée.
Avec qui le gouvernement camerounais doit-il dialoguer du côté des séparatistes?
Bon, on devrait déjà commencer par permettre aux instances prévues pour le dialogue national que le gouvernement accepte enfin que l'Assemblée nationale et le Sénat se saisissent de cette question, parce qu'aujourd'hui, on a pratiquement criminalisé le débat public sur la question anglophone. Il faudrait qu'on laisse aux gens la possibilité de discuter.
C'était le professeur Raoul Soumo Tayo, joint à Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump et la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, sont engagés dans un long bras de fer sur la question du mur à la frontière mexicaine, voulu par le président alors que le vote du budget se fait attendre depuis 26 jours. Les Américains sont quasiment les seuls au monde à ne pas prévoir de 12e provisoire, dispositif autorisant un budget pour une période déterminée en cas de retard de vote, afin d'éviter la fermeture des administrations. Pour une analyse sur le shutdown, Nathalie Barge a joint à Ouagadougou le politologue et juriste Siaka Koulibaly.
Le shutdown, effectivement, est arrivé un certain nombre de fois dans l'histoire politique américaine, mais ça a toujours été l'occasion d'éprouver les capacités de la classe politique américaine en termes de négociations, en termes de compromis, en termes d'arrangements au profit de la nation américaine. Ici, on a l'impression qu'une nouvelle formule de politique est en train de se dérouler, où le président, faisant argument pour lui ici, le budget de son mur n'est pas adopté, fait de la résistance, alors que comparativement, Barack Obama avait eu le même problème. Avec l'Obamacare, il avait bien accepté des négociations avec le camp républicain et progressivement il avait pris des mesures complémentaires pour avoir l'essentiel de son Obamacare. Ici, le président Trump aurait pu également accepter les 2 milliards annuels et puis l'année prochaine ajouter un autre milliard ou un milliard et demi progressivement. Jusqu'à la fin de son mandat, il aurait peut-être eu son mur. Donc je vois ici une compréhension de la politique qui est quelque peu divergente de ce qu'on a connu de la capacité de la classe politique américaine.
Cependant, sur le principe lui-même, vous avez au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays dans le monde, le système du 12e provisoire, hein, qui est un budget pour une période déterminée, ça peut être un mois ou plus, en cas de retard du vote. Comment voyez-vous le fait que seulement les États-Unis pratiquent cette formule-là ?
Les États-Unis, étant partis sur principe d'une société libérale dès le début, ont dû éprouver plusieurs situations et ont trouvé les mécanismes qu'il fallait pour dépasser les crises qui survenaient au fur et à mesure. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup de mécanismes qui ne sont même pas très connus du grand public américain, à plus forte raison des étrangers, et qui existent pour compenser tel ou tel blocage du fonctionnement des institutions. Donc ce n'est pas du tout étonnant que les États-Unis disposent d'un tel mécanisme pour dépasser les situations de crise.
Cependant, on est dans une situation aussi où le président a le droit de veto. Est-ce que, selon vous, le Congrès américain dispose d'autant de pouvoir que cela ?
Je crois que les pouvoirs du Congrès sont suffisamment importants dans la mesure où il y a beaucoup de mécanismes, comme je l'ai dit, qui existent au profit du président des États-Unis. Il a les executive agreements qui lui permettent de faire passer même certains textes sans le vote du Congrès. Mais la pratique est qu'ils usent très rarement de ces mécanismes-là parce qu'ils ne sont pas suffisamment démocratiques. Et le risque est qu'à chaque fois que la représentation nationale aura l'occasion, elle va remettre en cause des décisions adoptées par voie de passage en force. Ce qui fait que finalement, les présidents américains ont pris l'habitude de vraiment aller à la négociation lorsqu'il y avait des crises et des blocages qui survenaient.
Le politologue burkinabé Siaka Koulibaly.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à Georges Léonard Sagnon qui l'a mise en onde. Présentation Morgane Guiriek et Abdelrahman Dia.
Afrique, les infos.